Selon une enquête réalisée par Ipsos en 2011, 75% des parents interrogés à l'époque pensaient qu'il était plus difficile aujourd'hui d'élever ses enfants qu'auparavant. Pourquoi la parentalité serait-elle devenue aussi compliquée? Être parent ne semblerait plus aller de soi. Les découvertes récentes en matière de sciences de l'éducation pourraient quand même apporter des clés et permettre aux parents de retrouver confiance en eux. La journaliste Béatrice Caméraire publie chez Belin « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent ?» un livre dans lequel elle aborde de les grandes questions posées par la parentalité. Elle est mon invitée dans un instant avec la pédiatre Marie Thirion. Et j'attends vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une avancée sur le front de l'autisme.
Oui, avec peut-être un tout premier médicament pour traiter les symptômes autistiques. Une équipe française présente aujourd'hui des résultats cliniques très prometteurs et nous recevons celui qui est à l'origine de ces recherches, le neurobiologiste Yézekiel Bianari.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la science en grand format sur France 5 avec un documentaire ce soir consacré au lien entre les hommes et le climat. Stéphanie Texier réalise l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La parentalité en question, ce sera donc le dossier de l'émission dans quelques instants avec mes invités. En studio, à mes côtés, la journaliste Béatrice Caméraire. Bonjour.
Bonjour.
Et en duplex de France Bleu Isère à Grenoble, la pédiatre Marie Thirion. Bonjour à vous, Marie Thirion.
Bonjour, Mathieu.
Béatrice Caméraire, pourquoi être parent aujourd'hui semble plus difficile qu'avant, alors?
D'abord parce que c'est un choix individuel dont absolument tout le monde se mêle.
C'est ça, ouais, apparemment. Et donc?
Et ben, parce qu'il y a plein de contenus, plein de savoirs, il faut savoir où les trouver, lesquels utiliser pour faire ses propres choix, et que s'y retrouver dans tous ces conseils qu'on nous donne à droite à gauche et savoir à quel sens se vouer.
C'est plus compliqué. Marie Thirion, vous les trouvez plus angoissés qu'avant, les parents que vous côtoyez au quotidien ou pas?
Plus en questionnement intellectuel, mais tout aussi angoissé. Je crois que l'angoisse, elle a toujours été là. Et au fur et à mesure que les connaissances évoluent, la pression mise est de plus en plus forte. Mais je crois que ça n'a jamais été une période confortable.
Allez, on se retrouve dans un instant donc pour aborder quelques-unes des grandes questions auxquelles justement sont confrontés les parents et tout cela à la lumière des sciences de l'éducation. Les auditeurs nous rejoignent bien sûr avec les messages et les témoignages sur le site de La Tête au Carré. Soigner les symptômes de l'autisme avec un diurétique déjà sur le marché, la buméthanide. Voici la drôle d'idée proposée il y a 6 ans maintenant par une équipe de chercheurs français. Aujourd'hui, les résultats de la 3e étude clinique sur 87 enfants sont présentés. Ils sont encourageants. Yézekiel Bianari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, président et fondateur de la société Neurochlore qui a mené ces essais. Comment d'abord est-ce que vous avez découvert qu'un diurétique pouvait être efficace contre les troubles autistiques? C'est quoi le lien là?
Le lien, il est que je travaille depuis 30 ou 40 ans sur la régulation des courants électriques dans les neurones, un sujet compliqué. Et nous avons découvert le fait que dans des situations pathologiques, les neurones ont des taux de chlore élevés à l'intérieur, ce qui modifie leur décharge, leur activité électrique. Et on s'est dit, si on pouvait le baisser, ce taux de chlore, on pourrait peut-être atténuer certains symptômes. Il faut dire que ceci s'applique à l'autisme et à des tas d'autres maladies. Et un diurétique, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il agit au niveau des reins, sur l'entrée de chlore notamment, pas seulement, mais notamment. Et il fait la même chose au niveau du cerveau, à travers un même transporteur, finalement. Et donc, on a commencé par un essai avec 5 patients, ensuite on est passé à 57 patients, le docteur Lomonier l'a fait à Brest. Et là, nous avons fait un essai multicentrique dans 6 centres en France, dans 6 villes différentes, totalement double aveugle randomisé. Et les résultats qui ont été publiés hier montrent qu'il y a un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les enfants traités et ceux qui ont reçu le placebo.
Alors, quels sont les effets du traitement que vous voyez pendant 3 mois sur ces enfants?
Alors, il y a plusieurs critères pour évaluer la sévérité de l'autisme. On a utilisé les 3 principaux critères, qui s'appellent CGI, CARS et SRS, peu importe. Alors, évidemment, c'est une maladie, c'est un syndrome extrêmement hétérogène. Donc, on n'a pas pu choisir seulement les hauts niveaux, les bas niveaux. On a fait un panel assez large. Ce qui en ressort, c'est que la sociabilité est améliorée. Les parents, en général, disent... Les enfants sont plus présents, c'est le mot qui revient systématiquement, ils sont plus là, ils sont présents. Donc la sociabilité est améliorée, et puis il y a aussi une atténuation de ce qu'on appelle les stéréotypies, c'est-à-dire des mouvements désordonnés, et une amélioration de l'état général.
Et dès 3 mois, vous avez des résultats?
Oui. Oui, dès 3 mois, on a des résultats. Alors, il faut dire que Éric Le Monnier traite des enfants depuis maintenant quelques années. Il y a des enfants qui sont sous traitement depuis quelques années et ils continuent à prendre le traitement. Il faut comprendre que ce n'est pas une guérison. Je veux dire, c'est pas, j'ai mal au crâne, je prends l'aspirine, j'ai plus mal au crâne. Ça marchera pas pour ces maladies-là parce que ce sont des syndromes qui naissent intra-utéro, in utero. Et donc, il modifie quelque part la construction du cerveau. On sait par exemple que le cerveau d'enfants autistes autour de l'adolescence est souvent plus grand que le cerveau des typiques, des neurotypiques, de ceux qui ne sont pas autistes. Donc, il y a des modifications importantes dans la construction du cerveau. Et donc, comme l'initiation est intra-utérine, on comprend qu'on va dévier des séquences maturatives, développement tout simplement. Et à l'arrivée, vous avez une situation que vous ne pouvez pas guérir avec une pilule. Je veux dire, ce n'est pas notre ambition. Notre ambition est de réduire la sévérité du syndrome.
Alors, la buméthanide est déjà prescrite aujourd'hui pour d'autres troubles. Quelle est la suite de l'histoire? Les médecins vont pouvoir prescrire cette molécule pour traiter les troubles?
Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, il faut savoir que cette molécule a été synthétisée il y a plus de 40 ans. Et elle était utilisée pour traiter l'hypertension et l'œdème cérébral, parce qu'elle réduit l'eau, évidemment. Ça fait des années qu'elle n'est pratiquement plus utilisée. Au fait, l'entreprise Servier, avec laquelle nous allons faire la phase 3, parce que ce sont des sommes importantes qu'il faut dégager pour une phase 3, c'est-à-dire 370 enfants, 5 pays, ça va coûter cher. Ben, elle l'a fait parce qu'aussi, pour des tas de raisons, une parmi ces raisons, c'est qu'il y a en Europe ce qu'on appelle un PUMA, c'est-à-dire une protection du développement de médicaments pour les enfants. Parce que souvent, les entreprises ne sont pas intéressées. Quand vous faites ça, vous avez pendant 10 ans une complète protection. C'est-à-dire que même si la molécule est sur le marché, vous n'avez pas le droit de la vendre par rapport au produit que nous fabriquons, qui est un sirop d'ailleurs, qui n'est pas une pilule, qui est un sirop qui contient les doses qu'il faut, etc., etc. Mais il ne sera pas sur le marché tout de suite. La phase 3 va durer probablement 3 ans au minimum, parce que les autorités européennes ont exigé une durée de recrutement d'un an, ce qui est très long.
Pourquoi ?
De 2 à 18 ans, ce qui est très large. Eh bien, parce qu'ils veulent être sûrs qu'il n'y a pas d'effet à long terme d'une part, et d'autre part, ils veulent ce qu'on appelle un washout, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez ? Vous arrêtez de traiter. Normalement, après quelques temps, les symptômes reviennent.
Ouais,
je vous ai expliqué que c'était un traitement, pas une cure. Et donc, ils veulent un an pour être sûr que rien ne se passe. Alors, nous avons des enfants qui sont traités depuis des années. On a tout vérifié dans le sang. Il n'y a pas de modification au niveau des reins, etc., etc. Le seul effet secondaire est celui auquel on s'attendait, et auquel il faut faire très attention, c'est une baisse de potassium dans le sang. Parce qu'une baisse de potassium dans le sang, ça peut être embêtant pour le cœur. Mais on n'a pas eu de problème, c'est-à-dire ceux qui l'ont eu...
Donc on complémente dans ces cas-là ?
On complémente avec du potassium. Moi, on mange 3 bananes par jour, ça marche aussi bien. Ça suffit largement, il y a des tas de nourritures qui sont pleines de potassium. Donc c'est pas un problème grave. Mais il faut être au courant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prescrire ça n'importe comment, parce que voilà, ça peut avoir des conséquences que nous souhaiterons éviter, évidemment. Donc il faut le faire uniquement à temps, et il faut que les parents comprennent que la raison pour laquelle les autorités sont tellement...
précautionneuses,
c'est parce que, justement, elles veulent éviter des charlatans qui promettent X et Y tous les jours avec 2 patients qui ont été traités avec succès. Donc, autant je suis un peu... je suis contre l'administration excessive, autant je comprends dans ce cas-là que c'est soit ça, soit n'importe quoi. Donc, on est obligé de suivre.
Si la phase 3 est une réussite, on va aboutir sur quoi ? Un médicament à prendre toute sa vie, tous les jours ?
Alors, ça, c'est une question compliquée, parce que je pense que si on arrive à faire un diagnostic très tôt, pour l'instant, on ne le fait pas avant un an et demi. Les Américains disent qu'ils peuvent à 6 mois, mais c'est très débattu. Si on arrive à le faire plus tôt, je pense qu'on pourra améliorer le cœur du problème, qui est l'acquisition de l'interaction sociale, qui s'apprend. Vous savez, c'est pas inné, de savoir quelqu'un pleure, rire, comment on réagit.
Donc déceler le plus tôt possible cet effet déceler de chlore dont vous parliez tout à l'heure chez l'enfant.
Non, ça on peut pas le faire chez l'homme, c'est impossible, on peut le faire chez l'animal. Non, déceler le plus tôt possible l'autisme. Faire un diagnostic, cet enfant va être autiste. Et si on arrive à les traiter tôt, évidemment, les effets, on sait que des traitements, par exemple, psychologiques de Jean Abéa ou Teach marchent mieux quand c'est tôt. C'est évident, c'est compréhensible, parce que si on apprend tôt à réagir en société, on apprendra plus. Donc, ce que je veux dire quand même, une chose importante, c'est que, avec Servier, on va faire cette phase 3. Et moi, pour ma part, avec l'argent qui va rentrer dans Neurochlore, je vais essayer de créer une fondation. J'ai pas envie de faire Dieu sait quoi avec ces sous. Je vais créer une fondation, construire un institut dont le but sera justement de comprendre et de traiter des maladies neurologiques et psychiatriques. À bon entendeur, c'est vrai que c'est une opération assez ambitieuse, mais je pense qu'un des problèmes dont la France souffre, c'est que la distance entre recherche fondamentale et appliquée est un peu trop grande, géographique et conceptuelle. Comme le financement de la recherche publique en ce moment va très mal, c'est pas un scoop, il va aller de plus en plus mal. Je pense que ce genre d'approche permet de faire des recherches extrêmement conceptuelles avec des sous qui...
Donc ça vous oblige à travailler avec un laboratoire comme Servier, par exemple ?
Non, je n'arrive pas avec eux. Eux, ils vont investir pour avoir la licence dans Neurochlore. Si, je travaille avec eux pour la phase 3, bien sûr. Mais la phase, indépendamment de la phase 3, quand une boîte acquiert une licence, elle investit dans la, elle donne de l'argent à la boîte qui a la licence. C'est-à-dire, nous, en l'occurrence, avec Instant Transfer. Et Neurochlore, avec cet argent, va construire un institut.
Allez, dernière question, Axel.
Oui, est-ce que cet institut, par exemple, ira chercher pourquoi, dans certaines conditions, le cerveau recrute trop de chlore? Est-ce que l'origine du mécanisme, c'est l'origine de la maladie aussi?
Absolument. Je travaille beaucoup sur des... Il y a des tas de questions d'importance majeure sur le plan de santé publique, comme par exemple la prématurité, les césariennes programmées, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose sur le plan des mécanismes. Et nous faisons ça chez les souris. Nous essayons de comprendre sur la souris quels sont les mécanismes qui résultent de ça, notamment l'entrée de chlore. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe in utero. Parce que c'est là la clé du problème. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe in utero. Si on comprend ça, on pourra avancer.
Ezekiel Benary, ce sirop, il pourrait arriver quand sur le marché, a priori, si tout va bien,
hein? Fin 2021, pardon.
Fin 2021, avec toutes les précautions d'usage.
Parce que vous savez, les autorités européennes à Londres prennent un an à répondre une fois que nous avons réussi l'essai, alors évidemment.
Mais c'est important de le préciser et de dire qu'il faut être patient.
Ah oui, non, on ne peut rien faire avant. Voilà. On ne peut rien faire avant, malheureusement. On ne peut pas aller plus vite que la musique.
Merci beaucoup, Ezekiel Benary. Donc, résultat que vous avez donné hier autour donc, de ce diurétique et de ses promesses autour de l'autisme. Merci beaucoup. Axel, on se retrouve ce soir, au fait.
Hein. On se retrouve à 18h30 sur Facebook pour un live avec toute l'équipe.
Voilà, et ce sera donc l'occasion de discuter tous ensemble. N'hésitez pas à vous connecter 18h30 ce soir.
Et d'ici là, on a laissé sur la page Facebook un formulaire pour nous poser des questions à l'avance. N'hésitez pas à le remplir aussi.
Merci beaucoup, à tout à l'heure. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un crâne fossilisé de 400 000 ans pourrait éclaircir les origines sur l'homme de Néandertal. C'est au Portugal que ce crâne présentant plusieurs traits typiques du genre, notamment un épaississement osseux singulier au niveau des sourcils, a été trouvé. Il s'agit du plus ancien crâne dominidé découvert dans la péninsule ibérique. La datation de ce fossile, obtenue grâce au sédiment dans lequel il était emprisonné, est d'ailleurs l'une des forces de cette découverte. Elle permet aux chercheurs de penser que le crâne appartenait à un ancêtre de l'homme de Néandertal disparu il y a 30 000 ans et dont nous ne connaissons pour l'instant pas grand-chose. Des chercheurs recréent des mini-organes en laboratoire, ou plus précisément des organoïdes qui miment les caractéristiques de nos organes. Foie, cœur ou même glandes salivaires sont autant d'organes qu'il est capable d'imiter à partir de cellules souches. Grâce à cette méthode, on peut ainsi observer la façon dont certaines maladies agissent sur le métabolisme ou tester les effets de nouveaux médicaments. En revanche, il n'est pas possible de s'en servir pour des greffes, ces organoïdes n'étant pas fonctionnels. Et puis pour finir, une avancée théorique importante en physique fondamentale. Il existe, vous le savez, une vitesse maximale de refroidissement. Vous ne le savez pas encore d'ailleurs, c'est la découverte, une vitesse maximale de refroidissement de la matière. C'est ce que pensent avoir démontré deux physiciens londoniens. Cette valeur serait en quelque sorte l'équivalent, ça vous le savez, de la vitesse de la lumière, mais appliquée à la thermodynamique. De la même façon que rien ne peut rivaliser avec la vitesse de la lumière dans le vide, la matière ne peut pas refroidir plus rapidement au-delà d'une certaine vitesse. Des applications pourraient découler de cette découverte, par exemple dans le domaine des ordinateurs quantiques fonctionnant à très basse température. Mais les chercheurs insistent surtout sur la valeur théorique de leurs travaux publiés dans le journal Nature, puisqu'ils permettent de confirmer la troisième loi de la thermodynamique sur laquelle se basent de très nombreuses recherches. Allez, la parentalité, on en parle dans un instant. C'est le dossier de La Tête au Carré avec vos messages sur franceinter.fr.
We're all gonna be alright. We're gonna be alright. à gauche, tu mets les plus, à droite, tu mets les moins. Dans les moins, culpabilité. Je crois que ce mot, quand tu deviens mère, te poursuit et va avec le package. Éducation au sein ou éducation à l'antique, éducation rousseauiste, éducation voltairienne, la fessée, pas la fessée. T'as toujours l'impression de faire mal. Ça, c'est les moins. Alors, les moins, j'ai oublié de mettre, mais alors, insomnie, cri, perte de sommeil, cerne. Une vie sociale amoindrie. Dans les plus, t'as une actu. T'as fait quoi ces 8 derniers mois? Tada! J'ai fait un enfant. Tu n'as pas travaillé pour autant, mais ouais, tu as enfanté. Donc, dans les plus, on peut mettre reconnaissance sociale, équivalent à un an de travail ou à une promotion. Ouais.
Voilà, extrait de la série Cam Web, devenir mère, pour illustrer notre dossier sur les grandes questions autour de la parentalité, avec mes invités, la journaliste Béatrice Caméreur et la pédiatre Marie Thérion. Béatrice Caméreur, vous êtes diplômée en sciences de l'éducation, vous avez fondé les Vendredis Intello, c'est une association justement de diffusion des connaissances dans les domaines de la parentalité et de l'éducation, et vous êtes la mère de 5 enfants, on peut le préciser si vous me permettez, et donc vous publiez Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent aux éditions Belin. Et puis Marie Thérion, vous êtes avec nous en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Vous êtes médecin pédiatre. Vous avez réagi à ce qu'on vient d'entendre, Béatrice Caméreur,
oui, parce
sur
que je
avantages, désavantages.
Oui,
vous êtes
c'est...
à peu près d'accord avec ce qui a été dit dans la série. Ouais. Est-ce que les sciences de l'éducation, ça vous a aidé à élever vos 5 enfants alors? Est-ce que les théories, dans la pratique, ça sert vraiment à quelque chose dans ce domaine bien particulier de la parentalité?
Alors, les sciences de l'éducation, c'est une partie de toutes les connaissances qui sont produites actuellement qui parlent de la parentalité, puisqu'il y a aussi tout ce qui concerne la période néonatale, qui n'est pas forcément très pris en considération. Alors, est-ce qu'on peut immédiatement s'en servir pour devenir parent? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de ces savoirs qui peuvent aider au moins les parents à prendre du recul par rapport à toutes les injonctions qu'on peut entendre, à se dire qu'il n'y a peut-être pas une seule bonne manière d'éduquer un enfant, que si on ne fait pas exactement ça, on risque de tout mettre par terre. En réalité, les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus vastes, et c'est cette diversité. Oui, vers lesquels j'aime bien.
Vous rappelez qu'il y a des scientifiques comme ceux de l'université de Berkeley qui mettent en garde également contre les dangers des conclusions hâtives dans ce domaine et de l'interprétation qu'en font les médias ou les grandes institutions, par exemple.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après, c'est la science qui est en train de se faire. Donc, il faut aussi vulgariser dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de revirements. Les parents parlent beaucoup parce qu'on y est soumis. Des revirements de la puériculture où on dit blanc et noir le lendemain sur les questions d'allaitement, sur les questions, voilà. Et tout ça, c'est que la science est en marche. Donc,
c'est ça, oui. Alors justement, Marie Thérion, cette science qui évolue, mais qui évolue très vite aussi, hein, selon les époques et la société, c'est compliqué de la suivre pour les parents aussi, non?
Mais je crois que c'est un peu rigoureusement impossible, parce que dans ce qui est publié, il y a les choses qui sont, comme on vient de l'entendre, qui sont en marche et qui seront contredites ou renforcées quelques mois ou quelques années après. Il y a des choses qui vont complètement disparaître et d'autres qui vont apparaître alors qu'on ne les avait pas vues venir. Je pense qu'il y a énormément de modifications. La difficulté pour les parents, c'est que de toute façon, le parcours personnel, intellectuel de recherche qu'ils peuvent faire est très limité par rapport au poids de l'environnement qui va être autour d'eux. Pendant la grossesse, au moment de la naissance, après, pendant les premières années de l'enfant, ils sont dans toute une société, qu'elle soit médicale, qu'elle soit le milieu des éducateurs, que ça soit leur famille, que ça soit quoi que ce soit, qui fait que leur libre arbitre est quand même extrêmement limité. Oui. Alors, autant ça me paraît important que ces connaissances diffusent pour faire évoluer globalement les mentalités dans une société, autant je pense que pour soi, dans l'expérience imminente ou réelle de la parentalité, c'est très difficile.
Oui, alors ce que vous décrivez, Marie Thérion, c'est un petit peu le résultat des enquêtes qui sont menées aussi, qui montrent à quel point les parents sont complètement perdus aussi aujourd'hui, et trouvent qu'il est difficile, plus qu'avant, d'élever ses enfants.
Oui, mais c'est parce qu'on leur fait croire qu'ils ont vraiment le choix. Autrefois, il y avait des normes très précises qui étaient transmises de génération de parents en génération de parents. D'ailleurs, souvent, pour la petite enfance, de génération de femme à femme, de mère à fille. Maintenant, on a l'illusion, parce que je pense que c'est vraiment une illusion, qu'on a le choix de modifier beaucoup de choses, alors que je crois que ce choix, on l'a pas tant que ça.
Oui. La parentalité, les questions d'éducation, Béatrice Caméreur, c'est vraiment une préoccupation majeure pour un parent aujourd'hui?
Oui, je pense que ça fait partie des préoccupations, oui, majeures. Ils en parlent beaucoup, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant, c'est considéré comme un projet. Donc, avec tout le vocabulaire de l'idéologie managériale qu'on peut mettre derrière, ça veut dire que on se met des objectifs, il faut évaluer. Et puis surtout, ça veut dire qu'on doit réussir, parce qu'il y a une dimension identitaire qui est très forte là-dedans. Donc, les injonctions sont d'autant plus fortes que...
Il y a ce terme que vous avez cité, c'est celui de projet. C'est épouvantable, non?
Un
projet parental, comme on aurait un projet immobilier.
Ah oui, mais c'est complètement ancré. Aujourd'hui, on annonce quand on commence à faire des essais pour tomber enceinte. Tiens, je commence les essais bébés, mais c'est presque une annonce. C'est une annonce sociale. Et puis le projet parental, c'est quelque chose qui est, c'est un vocabulaire qu'on retrouve par exemple chez les personnes qui sont en demande d'aide médicale à la procréation. On va leur demander de justifier, de motiver leur projet. Donc c'est une réalité que l'enfant est un projet, avec tout ce que ça a d'effrayant.
C'est ça. Marie Thirion, vous êtes d'accord avec ça aussi, sur cet aspect managérial au fond de la parentalité aujourd'hui ?
Oui, je crois que c'est présenté comme ça, mais que c'est très très loin de la réalité des parents. Parce que la réalité parentale, c'est d'abord quelque chose d'émotionnel et d'intime. C'est pas un projet rationnel et intellectuel. Donc il y a une arnaque quelque part de trop présenter les choses sous la forme de projet. C'est vrai tout autant, par exemple, sur les projets de naissance qu'on présente à une maternité en disant, voilà, j'aimerais accoucher comme ci, comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que nul ne peut prévoir comment il réagira à l'inconnu. Alors, je dis nul, alors là, au féminin, mais pas uniquement pour les pères, c'est vrai aussi. On ne se prépare pas à l'inconnu et on ne se prépare pas aux émotions qui nous traverseront dans les épisodes inconnus.
Béatrice Caméraire, vous dites aussi à quel point on a discrédité aussi les savoirs populaires, au fond, hein, ce que connaissaient nos parents ou nos grands-parents, ce qui était transmis justement à leurs enfants sur la façon d'éduquer les enfants. Aujourd'hui, on est plus dans le savoir scientifique, et c'est aussi une façon de se perdre plus facilement dans les méandres de l'éducation.
Bah en tout cas, oui, il y a eu cette rupture. Enfin, le sociologue Luc Boltanski le décrit très très bien. Il y a une volonté au 19e siècle, quand on a découvert l'ampleur de la mortalité infantile, parce qu'avant, il n'y avait pas de statistiques, donc on n'avait pas pris conscience, de dire, bon, bah maintenant, pour lutter contre ça, il faut qu'on mette les savoirs de la puériculture en lieu et place des savoirs populaires. Donc, il a fallu un peu fragiliser ça, discréditer le savoir des grands-mères, et ça a déconstruit du lien. C'est-à-dire que les parents, avant, pouvaient se reposer sur leur entourage immédiat, et qu'aujourd'hui, non seulement les savoirs vont très vite, sont très vite renouvelés, et on ne sait pas ce qu'on peut tenir comme vérité ou pas, mais en plus, les grands-mères, les grands-parents ont déjà un savoir obsolète, donc il n'y a pas du tout ce côté rassurant et sécurisant.
Oui. Marie Thirion, sur cette transmission, justement, le savoir familial, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a laissé ça à la faveur des injonctions en tout genre, hein.
Oui, mais je crois qu'on a oublié aussi qui sont les référents principaux des parents. Si on prend par exemple la grossesse et l'accouchement, il y a un poids énorme du monde médical et de l'emprise des idées des soignants sur ce qui se passe. Et c'est vrai, tout à fait vrai, dans les premiers jours après la naissance, au niveau des injonctions qu'on va donner à une nouvelle mère sur la façon de se comporter avec ce nouveau-né. Pour n'importe quoi, son sommeil, son alimentation, n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est oublié régulièrement, c'est de faire le lien avec les référents qui vont suivre, c'est-à-dire les gens dans l'environnement, après la sortie de maternité, qui vont être les accompagnants. Et donc, si cette jeune femme a entendu des choses tout à fait fortes en maternité et qu'après, dans son environnement, elle entend l'inverse, eh bien, elle va être perdue, parce qu'elle ne sait pas où et comment s'appuyer quand elle commence à perdre pied.
Et qui sont ces liens dont vous parlez, justement ? À quoi vous faites référence ?
Moi, je crois que ça peut être n'importe quelle personne en qui ses parents ont confiance et qui font partie de leur environnement. Je crois qu'on n'élève pas un enfant tout seul. On l'élève dans une société, on l'élève dans un quartier, on l'élève dans un groupe d'humains avec lequel on partage des valeurs communes. On va appeler ça valeurs, mais ça peut être aussi un regard commun sur l'éducation, sur la façon de se comporter. Donc, On élève ses enfants avec sa famille, ou avec ses amis, ou avec ses voisins, ou avec les associations dont on fait partie, ou on ne les élève pas tout seul. Et si, dans ces milieux-là sur lesquels on est censé s'appuyer et trouver de l'aide, il y a la plus grande incohérence, c'est très difficile.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion avec les messages des auditeurs et les témoignages franceinter.fr et les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. À tout de suite. Clara Luciani, comme toi.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Béatrice Caméra avec ce livre « Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent ». C'est avec Amandine Jouet et c'est aux éditions Belin avec la parentalité en 9 questions qui divisent et en duplex de France Bleu Isère à Grenoble. Le médecin pédiatre Marie Thirion également avec nous. Alors des messages des auditeurs. Alice qui nous dit ceci « Je suis complètement débordée dans tous les conseils, avis, livres. On est tout le temps culpabilisé, on ne sait plus où donner de la tête. C'est très difficile de se faire une idée sur ce qui est bien ou pas et malgré les décisions prises, nous sommes très vite jugés. On sait quand on fait mal, mais jamais quand on fait bien. » Béatrice Caméreur, le reflet de ce que pensent beaucoup de parents.
Oui. Le reflet, encore une fois, de toutes les attentes sociales qui reposent sur le dos des parents, qui sont porteurs d'énormément d'ambivalence, où on dit lâchez prise, mais surtout soyez pas des parents hélicoptères, soyez pas des parents.
Ah, c'est quoi le parent hélicoptère?
Ah, bah c'est celui qui veut tout contrôler, qui veut surprotéger un petit peu ce côté-là. C'est voilà, mais bon, il y a plein de manières de le dire, mais voilà, c'est lâchez prise, surtout ne vous faites pas de soucis, mais bon, quand même, soyez hyper vigilants. Soyez toujours là. Donc, effectivement, on peut être qu'en échec, puisque soit on n'est pas l'un, soit on n'est pas l'autre.
Ce sont toutes ces injonctions paradoxales dont vous parlez tout au long du livre. Marie Thirion, il y a un autre message d'Olivier qui nous dit « Vous parlez de science, mais est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à des modes dans le domaine de l'éducation des enfants ? Vive Dolto, abat Dolto !»
Des modes, non. Des évolutions et des avancées, certainement. Mais... il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a les vraies recherches, celles qui sont bien faites, celles qui sont bien menées, sont rarement catégoriques. Il n'y a pas du ABBA où tout le monde va vers Dolto, par exemple. Ouais. C'est rarement catégorique. Et puis c'est toujours, en plus, toutes les recherches sont toujours sur des secteurs limités. On cherche une chose, et puis on en cherche une autre, et puis on en cherche encore une autre dans une autre étude. Et chacun de ces petits points, finalement, un jour ou l'autre, peut commencer à entrer dans une cohérence de recherche scientifique. Mais il ne faut pas demander aux recherches de nous apporter comme ça sur un plateau une recette qui serait valable pour tous et qui serait valable surtout immédiatement.
Ouais. La cohérence, hein, Béatrice Caméra, c'est ce qui semble manquer pour beaucoup de parents qui sont perdus justement dans toutes ces publications et...
Oui, oui, bah complètement. Mais je rejoins complètement Marie Thirion sur le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de sources. Donc c'est vrai que moi, ça a été un peu à l'origine du projet de l'association des Vendredis Intellogues, de dire plutôt que de laisser, parce que de fait, c'est ce qui se passe dans la société, hein, les parents être exposés à telle ou telle théorie qui est à chaque fois présentée comme la bonne solution, et peut-être qu'on pourrait créer un espace virtuel où chacun pourrait partager ses lectures, justement toutes ces théories, de manière à montrer qu'il y en a plein, que chacune peut apporter un regard différent sur la situation et que finalement plutôt que d'avoir d'être ouvert à cette diversité pour mieux l'approprier et faire des choix qui ont du sens, parce que c'est quand même ça qui est important, faire un choix qui a du sens par rapport à son histoire, sa famille, son enfant et sa dynamique.
D'ailleurs le livre c'est le prolongement des Vendredis Intello directement.
Oui. C'est le prolongement de toutes les questions qui ont pu être émerger sur le site, puisque ça c'est un site participatif où tout le monde peut contribuer avec la particularité que ils doivent citer une source, en fait. Voilà.
Ouais. Que ce soit une lecture de journal ou une publication scientifique, par
exemple. Absolument, absolument.
Alors, parmi les théories qui ont pu inspirer le cinéma, extrait de ce film Bébé mode d'emploi, sorti en 2010 sur les écrans, c'est un film de Greg Berlanti.
Coucou. Oh, le petit est encore endormi.
Non, ne la prends pas. Parce qu'elle doit apprendre à s'auto-apaiser, c'est très important.
Elle doit quoi ?
S'auto-apaiser, se calmer toute seule. Je viens de le lire, mes sœurs, c'est important. Okay. On attend,
d'accord.
On attend une minute.
Bah...
Tu vas bien ? Tu es une petite fille heureuse. Tu sais quoi ? On va chanter une chanson. On va chanter les roues du bus tournent et roulent.
Toute la journée. Et alors Kenny Reeves sauve le bus.
Je crois qu'elle a faim. Je vais lui donner à manger. Allez, mon ange, on va manger.
Je croyais qu'il fallait pas la prendre.
Voilà la contradiction ici mise en son et en image dans ce film Bébé mode d'emploi et qui illustre bien effectivement la façon dont on peut être complètement perdu dans tout ce qu'on nous demande de faire avec les bébés.
Oui, et puis déconnecté de ce qu'on ressent aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des parents, c'est aller à l'encontre de son réflexe, aller à l'encontre de ce qu'on aurait fait spontanément, ça, c'est quand même un peu interrogeant.
Marjorie nous dit ceci, je déteste cette pub ricorée qui nous montre une famille où tous ont l'air heureux et bienveillants. Personnellement, j'ai trouvé très difficile de devenir mère il y a bientôt 20 ans, surtout qu'autour de moi, toutes les autres mères avaient l'air de s'en sortir sans problème. Je crois que les choses se sont quand même améliorées, parce qu'aujourd'hui, les parents osent parler de leurs difficultés, ce qui n'empêche pas le fait qu'être parent a été pour moi l'expérience la plus importante de ma vie. Effectivement, on se confie plus facilement sur... on assume plus facilement les difficultés, justement, on les revendique.
On les revendique. En tout cas, il y a des espaces pour les partager. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais beaucoup... j'avais trouvé qu'il y avait un potentiel avec le numérique qui était très important. C'est-à-dire que quand on a une maman qui est toute seule, isolée avec son bébé, ouvrir un ordinateur pour commencer à échanger, c'est quand même beaucoup plus facile que se déplacer avec tout ce que ça a d'impliquant personnellement, émotionnellement. Donc ça, c'est vraiment la force quand même des réseaux sociaux et puis du numérique d'avoir permis ça.
Marie Thirion, un autre message de Cadra qui nous dit « L'année dernière, le médecin de la PMI nous a reproché de ne pas coucher nos enfants à 19h30. Mon mari et moi travaillons tous les deux. Il est incroyable de constater que même les médecins ne se rendent pas compte de la vie réelle des parents. Longtemps, j'ai culpabilisé de ne pas réussir à mettre en pratique la théorie. » Qu'est-ce que vous répondez en tant que médecin pédiatre, Marie Thirion, justement ?
Mais je pense que dans les conseils donnés par les médecins, il y a un maximum, et j'en parle en tant que médecin,
oui, bien sûr.
Il y a un maximum de choses qui ne sont absolument pas scientifiques. Et qu'il y a des quantités de domaines où on prend la parole de façon péremptoire, alors qu'on n'a pas la moindre idée de d'où ça vient, pourquoi 19h30 plutôt que 20h, pourquoi 20h30. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, il n'y avait pas une demi-heure sur ce que c'était que le sommeil. On l'ignorait. Il n'y avait pas une demi-heure sur ce que c'était que la faim. Or, c'est les deux premiers sujets en tant que pédiatre sur lesquels on répond aux parents à longueur de journée.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On répond avec ce qu'on a appris, c'est-à-dire ce qu'on a entendu dans toute notre enfance, dans notre adolescence. On répète les diktats familiaux, les diktats de notre société, et c'est rarement quelque chose qui a été travaillé. Et quand on commence à le travailler, travailler, on dit des bêtises, et puis petit à petit, on essaye d'être de plus en plus performant. Mais on peut pas demander aux médecins d'être performants sur quelque chose qui n'est effectivement pas quelque chose qu'ils ont appris.
Marie Thérion, vous donnez l'exemple justement de la faim dans le domaine de l'alimentation. Voilà une difficulté supplémentaire pour les parents aujourd'hui qui ne savent plus quoi donner quasiment à manger à leur enfant et ont peur précisément qu'ils ingurgitent des pesticides en tout genre, des colorants. Enfin, là aussi, c'est un domaine quand même absolument essentiel de la vie qui est très compliqué à gérer, non ?
Ah ben c'est valable à tous les âges, ça. C'est vrai que si on veut éviter les pesticides, les métaux lourds, les produits issus du plastique, si on veut... Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus manger. Et si on va un peu plus loin et qu'on apprend que la plupart des plantes sont des dépurateurs du sol, ça veut dire que c'est merveilleux pour le sol, mais que si on mange la plante en question, les polluants sont pour nous. Je crois qu'effectivement, on ne sait plus comment et quoi manger. Mais là, on est sur un autre problème, qui est un problème politique.
Oui, Béatrice Caméraire, que vous abordez quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est une difficulté aussi pour les parents de gérer cet aspect-là des choses.
Sur la question spécifique de l'alimentation ou sur la question, oui, plus générale de tout ce qui touche à la santé, en fait, de tout ce qui va toucher à l'articulation entre voilà le savoir médical et puis les choix au quotidien. Je crois que Marie Thérion l'a bien dit aussi, que les médecins sont pas forcément formés et en tout cas, ils ont tendance, parce qu'il y a des attentes parentales fortes, à sortir de leur zone de compétence. Les parents, ils ont aussi envie d'être très acteurs par rapport à ça et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les informations et surtout d'évaluer les risques parce que vous savez, notre cerveau, il n'est pas très bon pour évaluer les risques, donc parfois il y a des déformations, soit à cause de la manière dont les sujets sont médiatisés, on a l'impression de s'exposer à des risques énormes alors que en fait, c'est des risques minuscules qui s'ajoutent à toutes les variabilités qu'on peut avoir dans nos vies. Donc voilà, replacer aussi les choses à leur juste place, ça peut être une manière de tranquilliser et rassurer les parents.
Allez, quelques autres grandes questions autour de la parentalité, on l'aborde dans la troisième partie de ce dossier avec toujours les messages sur franceinter.fr. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Anything at all, you got it, baby. Yougal est avec Roy Orbison sur France Inter. Marie Thirion et mon invitée Béatrice Kammerer en studio sont avec nous pour nous parler des grandes questions de la parentalité avec vos messages, vos témoignages. Marie Chantal nous dit ceci, Marie Thirion, peut-être pour vous cette question. Le plus important, dit-elle, c'est de connaître les stades du développement de l'enfant pour mieux le comprendre et éviter les mauvais traitements. C'est important ?
Non. Je vais répondre carrément.
Alors,
non.
Eh bien, dites-nous pourquoi.
Non, parce que les grands stades, tout le monde les connaît, bien sûr. Mais l'important, c'est de regarder chaque enfant là où il en est. Et là où il est, de l'accompagner vers son évolution. C'est pas de se demander s'il est conforme au grand stade, au bon moment, dans les bonnes manières, ça, non. L'important, c'est de le regarder lui et de l'écouter lui. Et de le faire, non pas en parent angoissé, mais en parent serein, heureux d'être là à côté.
Béatrice Kammerer, Marie nous envoie ce message. Maman de 7 enfants, de 17 ans à 2 mois, je ne me préoccupe plus des avis d'autrui. En 99, j'ai beaucoup lutté pour vivre ce que j'avais à vivre avec mon premier bébé, fort de mes lectures de vulgarisation scientifique et des ouvrages historiques et anthropologiques sur la maternité. Maintenant, je n'en fais qu'à ma tête. Mes enfants poussent bien, sont en bonne santé. L'éducation, finalement, c'est une question de bon sens. On a envie de lui dire, ben oui, bien sûr, non ?
Mais complètement. Oui, complètement. En tout cas, le bon sens, c'est vraiment la chose qu'il faut pas lâcher. Et puis, le sens qu'on y met, faire des choses qu'on investit et qui, pour nous, ont du sens, c'est complètement fondamental. Oui, oui. Ouais.
Et plus on a d'enfants, peut-être, et plus c'est évident aussi, non ? De faire le tri de façon drastique, non ? Entre toutes les théories.
Plus on a d'enfants, plus on se rend compte que les enfants sont tous différents et qu'il va falloir bricoler, il va falloir s'arranger, il va falloir quelque chose qui va marcher avec l'un, va pas marcher avec l'autre. En fait, cette connaissance qu'on peut avoir aussi en regardant ce qui se passe dans les autres pays, dans les autres sociétés ou dans l'histoire, c'est un peu le même genre de choses. C'est juste se dire, en fait, globalement, un enfant, il a besoin d'un cadre de sécurité dans lequel il se sent bien, il a besoin qu'on l'aime, et puis ça va, ça pousse. Bon. Le reste, c'est du plus.
Ouais. Marie Thirion, il n'y a pas de loi universelle, hein, visiblement. Hein.
Ah ben non, il n'y en a pas. Si, il y en a une.
Laquelle ?
Il y en a une. Leur donner de la sécurité.
Oui, ben c'est
et le faire d'emblée, le faire tout de suite et le faire beaucoup.
Oui.
Le reste, non, il n'y a plus rien.
Alors ces nouveaux pères, tiens, si on parlait des pères aussi un petit peu, Béatrice Kammerer, qui sont-ils ces nouveaux pères ? Existent-ils vraiment d'ailleurs ? À quel moment ils ont émergé ? C'est quoi cette histoire là ?
Oui, alors ça faisait partie des grandes questions que j'ai abordées dans le livre, parce que moi j'étais emplie de ces espèces de discours médiatiques ultra-réactionnaires, comme quoi les pères, depuis mai 68, c'est la catastrophe, ils tiennent plus leur famille, ils tiennent plus l'autorité, toute la société est en décrépitude à cause de ça, donc moi j'ai voulu regarder un petit peu ça, voilà, pour me rendre compte qu'évidemment, mai 68 n'avait pas particulièrement été aussi, révolutionnaire de ce point de vue-là, puisque l'évolution de la paternité a subi des multiples reconfigurations depuis au moins 2000 ans, parce que bon, on se réfère tout le temps à la paternité romaine, mais voilà, de multiples reconfigurations où on a peu à peu dit que les pères, bah, ils allaient devoir s'investir dans l'éducation, que les pères, ils allaient devoir travailler loin de la maison, bref. Et puis alors donc, pour arriver au nouveau père, parce que ce qu'ils fustigent, tous ces gens-là, c'est quand même ces nouveaux pères qui deviendraient presque des mères. Et alors là, c'est plutôt le constat inverse que montrent les études, à savoir qu'ils sont pas très très nombreux. Les femmes ont beaucoup plus investi la sphère professionnelle que les hommes n'ont investi la sphère domestique. Alors évidemment, il y a des choses qui avancent, hein, qui progressent, mais là, au mois de février encore, l'INSEE a sorti une étude montrant que au moins pour une personne sur deux, les pères sont considérés comme étant moins capable de répondre aux besoins des enfants. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Marie Thirion, on reste dans une société ultra machiste en France quand même à ce niveau-là aussi. Hein.
Oui, oui, de toute façon, autant une entreprise peut comprendre qu'une mère s'absente parce que son gamin a 39 et qu'il faut l'emmener chez le médecin, autant l'homme, le père, la plupart du temps n'osera pas, et s'il essaie, il a beaucoup plus de chances pour que ça ne soit pas admis dans son milieu professionnel.
Ouais. C'est quand même inouï, non, hein ? Vous rendez compte, les progrès qui restent à faire dans ce domaine-là, ne serait-ce que de pouvoir poser des jours en tant que père, même si on a une compagne ou une mère à ses côtés, c'est encore mal vu par la société.
Ah oui, c'est mais ta femme peut pas le faire.
Oui, c'est
quoi cette histoire ? Elle est pas disponible.
L'éducation positive, hein, encore une question abordée justement dans cet ouvrage. Et pour en discuter avec vous, extrait justement de ce reportage diffusé sur France 2 en mai 2014.
Viens, présent, tu montes ta cahier ?
Depuis les vacances de février, tu n'avais jamais eu un 18 en dictée. Qu'est-ce qu'elle a écrit la maîtresse là ?
Affaire.
Affaire. Tu l'avais pas fini, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu feras la semaine prochaine sur un exercice comme ça?
Très vite.
T'as pas démarré à l'heure?
Ouais.
C'est ça? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien. Tout ce que t'as eu le temps de faire, c'est super bien. L'objectif, c'est d'abord de valoriser l'enfant, qu'il comprenne que le succès vient de lui, qu'il a tous les moyens de réussir, qu'il a progressé. Donc il faut toujours déterminer un élément de progrès et lui faire formuler lui-même la façon de réussir encore mieux la semaine prochaine.
Depuis le début qu'on fait ça, bah, y a plus de bonne humeur dans la famille.
On avait envie d'avoir quelques clés assez simples finalement sur comment faire pour échanger, mieux se comprendre.
Ça veut dire qu'on peut apprendre à être parent?
Oui, carrément.
Béatrice Kammerer. Alors, un commentaire. On a choisi cet extrait parce que c'est l'éducation positive à la maison. On aurait pu évoquer l'éducation positive en tant que pédagogie. Il y a beaucoup aussi d'écoles maintenant qui ont pris ce problème au bras-le-corps. Alors, ça donne quoi là aussi dans la réalité finalement, ce projet d'éducation positive?
Alors, l'éducation positive, ça répond quand même à un grand conflit, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il peut y avoir une alternative entre éducation laxiste et éducation autoritaire. Donc finalement, ça propose une troisième voie, ouais. qui est censée être gagnant-gagnant. Donc il y a beaucoup beaucoup d'espoir par rapport à ça, et puis c'est une posture éducative qui a le vent en poupe. Et voilà, parce que elle permet aussi de relier tous les côtés paroles de la parentalité, pardon, d'une manière plus optimiste. Et Dieu sait que l'optimiste, on en a vraiment besoin en ce moment. Donc par exemple, tout ce qui est les colères, les caprices, ben, ça devient une manifestation de l'immaturité des enfants. Les conflits, ça devient des occasions d'apprentissage. Donc tout ça, il y a beaucoup d'espoir. Mmh. Après moi, le seul point de vigilance que je vois pour le moment, c'est quand même que ça fixe de très hauts standards de parentalité. Parce que les parents doivent être, c'est bien ce qu'on a entendu dans l'extrait, il faut qu'ils apprennent des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières d'interagir, des nouvelles manières de comprendre. Mmh. Et donc ça veut dire qu'il faut encore être plus compétent pour être parent. Et peut-être que, voilà, moi, c'est quelque chose que je vois aussi que ça peut susciter des formes de culpabilité parce qu'on n'y arrive pas forcément bien. Donc, il y a des sentiments d'échec vis-à-vis de ça.
Marie Thirion, mais comme tout est compliqué, hein, parce que finalement, voilà, cette troisième voie, c'est une nouvelle voie aussi pour se perdre un peu plus, non?
C'est pas une nouvelle voie pour se perdre un peu plus. À mon avis, c'est absolument essentiel. Mais il faut être suffisamment costaud pour le réussir, pour y arriver. Il faut pas être envahi par ses émotions, par la peur de déplaire, la peur de pas être suffisamment performant pour le bébé. Mmh. Il faut sortir de quantité de modèles qui sont nos modèles archaïques, ouais, pour arriver à être en paix dans un nouveau modèle qui est entièrement à construire entre nos enfants et nous.
Virginie nous dit, je pense surtout qu'il y a justement, il n'y a plus cet étayage familial transgénérationnel pour les nouveaux parents. Je suis médecin de PMI, je peux témoigner que souvent le béaba de la puériculture manque souvent et qu'il faut savoir rester modeste dans les conseils que l'on peut prodiguer en tant que professionnel.
Oui, ben on retrouve un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, cette idée que les médecins sont pas forcément ont pas forcément les connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir répondre aux familles, et qu'il faut aussi pouvoir écouter les besoins et les attentes des familles, et puis leur mode de vie, en fait, la façon dont ils ont choisi d'interagir et d'être avec leur enfant au quotidien.
Beaucoup de parents élèvent seuls leur enfant, même en couple, sous le regard inquisiteur des autres parents, bien contents que pour le leur tout se passe bien jusqu'à présent. Élever un enfant, ce n'est pas une compétition, c'est une aventure humaine, et elle peut se vivre que si la société y contribue. Il n'y a pas assez d'entraide au sein de la famille et du quartier. C'est Elisabeth qui nous dit cela. On terminera avec ses propos. Ce dossier de la tête au carré, on vous renvoie sur comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent, et Béatrice Kammerer chez Belin. Et puis Pourquoi j'ai faim, c'est un ouvrage que vous aviez sorti déjà il y a quelques années, Marie Thirion, mais qui est toujours disponible. Merci beaucoup à vous et merci aux équipes de France Bleu Isère.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mercredis, vous retrouverez ce soir à 20h50 la science en grand format sur France 5. Quand le climat écrit l'histoire, c'est le documentaire à découvrir aujourd'hui. Bonjour Caroline Béard.
Bonjour.
Et c'est donc la vulnérabilité de l'homme face au climat qui est au cœur du doc ce soir.
Tout à fait. Alors ce soir, on va essayer de comprendre comment les variations extrêmes du climat influent tout simplement sur notre destin. Comment un froid glacial, comment une chaleur étouffante, une sécheresse dévastatrice vont influencer la grandeur et la décadence des civilisations. Comment, par exemple, elles sont à l'origine de la disparition de l'homme de Néandertal, comme va nous l'expliquer l'extrait qui va suivre.
Et qu'on écoute tout de suite.
Et qu'on écoute.
Des périodes de froid et de chaud se succèdent. Les paysages et la végétation se transforment à une vitesse phénoménale. l'homme et la nature doivent constamment s'adapter. L'homme de Néandertal atteint ses limites. Il ne parvient plus à surmonter ces changements permanents. Le chaos climatique menace son existence même.
À cette époque, l'homme de Néandertal vivait dans un environnement très boisé. Et en l'espace de 10 ans, il s'est retrouvé dans une steppe sans arbres. Le gibier qu'il était habitué à chasser avait disparu. Pour une société qui vit de la chasse, des changements de climat aussi radicaux sont très difficiles à affronter.
Les grands herbivores chassés habituellement par l'homme de Néandertal sont les premiers à subir les variations climatiques. Beaucoup ne parviennent plus à se nourrir dans leur habitat et meurent de faim ou migrent. L'homme de Néandertal qui a survécu avec succès à la période glaciaire devient tout à coup un chasseur sans proie. C'est à ce moment précis qu'un concurrent entre en scène. L'Homo sapiens fait irruption sur son territoire et lui dispute ses maigres ressources.
Voilà, Caroline Baird, un exemple de l'influence du climat, puisque c'est effectivement Homo sapiens qui va sortir grand vainqueur de la période glaciaire.
Tout à fait, mais on verra aussi dans ce documentaire tout le travail de recoupement des scientifiques, des historiens, des climatologues, pour nous montrer qu'à chaque grand tournant de l'histoire de l'homme, le climat a joué un rôle prépondérant. Comment la chute des pharaons a été précipitée par une période de sécheresse, comment les périodes de gel et dégel ont permis aux hommes d'explorer des territoires inconnus, comment l'essor et l'effondrement des civilisations est vraiment lié à ces périodes de prospérité ou au contraire de sécheresse. Donc le lien est très clair.
Eh bien, c'est ce qu'on verra ce soir avec ce documentaire, Quand le climat donc écrit l'histoire. C'est ce soir 20h50 dans la science grand format sur France 5. Merci Caroline, à la semaine prochaine.
Bonne journée.
Au revoir.